Nous te louons, nous te bénissons pour la grâce que tu viens encore de nous accorder d'être de ces côtés du temps et que tu as permis que nous puissions faire ces voyages jusqu'ici, non pas pour venir acheter ni pour vendre, mais nous sommes venus pour t'écouter. Alors que tu nous aides pour que cet objectif soit atteint ce soir. Mon Dieu, mon roi, merci pour les cantiques qui sont montés vers toi. C'était pour la gloire de ton Saint-Nom. Maintenant, pour la suite de la prédication, c'est entre tes mains. Je te confie ce travail. Bénis ton peuple qui est là pour venir écouter. Bénis aussi, ô mon Dieu Père, l'instrument que tu t'es choisi pour pouvoir apporter cette parole, Père, ce soir. Nous comptons tout simplement sur toi, Père, sur ce que tu as fait à Golgotha, non pas sur le nom. Sois-nous favorable. C'est dans le nom béni et suffisant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ que nous t'avons ainsi prié. Amen. Je vous salue dans le précieux nom et suffisant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ ce soir encore.
Alléluia.
Voilà, c'est une grande joie. Nous remercions le Seigneur et nous sommes très heureux d'être à nouveau assemblés ici ce soir et pas ailleurs. Ah, c'est une grâce. Pas ailleurs.
Alléluia.
Mais ici, au service du grand roi, devant qui tout genou doit fléchir. Et en ce lieu, nous avons une grande assurance. Dieu envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité, selon le psaume 133, n'est-ce pas?
Amen.
Alors nous sommes dans la joie. Mes bien-aimés dans le Seigneur, dans notre marche chrétienne, nous devons apprendre à faire attention aux choses qui semblent spirituelles, mais en réalité, elles ne le sont pas. Nous avons vu ça la fois passée avec le sujet qui était intitulé « Les espérances trompeuses des croyants ». Je pense que tout le monde qui était là a su tirer l'épingle du jeu. Nous avons illustré ces espérances trompeuses en prenant 4 exemples. Nous sommes partis en Juda avec Jérémie 7, versets 4 et 8. Il ordonnait au peuple de Juda de réformer leur voie au lieu de s'adonner aux espérances trompeuses. Le peuple de Juda pensait que parce qu'il y avait le temple à Jérusalem, rien ne pouvait leur arriver. Alors que nous avons vu ensemble, ce n'était pas ça la volonté de Dieu. La volonté de Dieu est que le peuple arrivait à réformer leur voie. Et il a indiqué le point sur lequel le peuple devait réformer leur voie. Et nous sommes partis en Galate. Quand on arrive en Galate, il y avait ces problèmes de la circoncision. On voulait les ramener au rite judaïque. Mais Paul leur dira dans Galate 5, verset 6, il va leur montrer l'essentiel. Il leur dira, l'essentiel, ce n'est pas la circoncision extérieure. Le vrai juif, c'est celui qui est intérieurement circoncis. L'essentiel, c'est la foi agissante par la charité, Paul leur avait dit. Et nous ne nous sommes pas arrêtés là. On est parti voir un peu nos amis les pharisiens dans Luc 18, versets 11 et 14. Il y a un pharisien ou un pharisien qui priait à haute voix en disant que lui, il gênait. que lui, il payait sa dîme. Mais le Seigneur va le surprendre dans Matthieu 23, verset 23. Il leur montre l'essentiel. L'essentiel, c'était la justice, la miséricorde et la fidélité. Enfin, quand nous sommes partis dans Matthieu 15, verset 1 à 20, nous avons appris que le Seigneur ne respectait pas la tradition. Et c'est pour cela que au chapitre, Matthieu chapitre 15, verset 2, les pharisiens prennent quand même le temps de poser cette question au Seigneur. Pourquoi tes disciples transgressent-ils la tradition des anciens? Dans ce même chapitre, Matthieu 15, au verset 4 et 7, le Seigneur leur a dit l'essentiel, c'était plutôt de respecter Exode 20, verset 12, c'est-à-dire le cinquième commandement qui consiste à honorer son père et sa mère. Il leur a dit, et non le lavage de mains, de coupes, de cruches, de vases. Donc ici, le lavage de mains semble spirituel, mais en réalité, c'était une espérance trompeuse. Alléluia.
Amen.
Alors, mes frères et sœurs, comme je disais tout à l'heure, je pense que tout le monde a su tirer l'épingle du jeu, parce que c'était une situation délicate. On peut se dire, ah, moi je suis dans ça, moi, alors que tu es dans une espérance trompeuse, n'est-ce pas? Moi je suis du message, vous êtes de ceci, vous êtes de cela. Et il faut être dans l'essentiel. Alléluia. Dans l'essentiel. Hein? Alors, là, l'espérance trompeuse, j'ai dit que c'est un renard. Un renard qui détruit la vigne. Alléluia.
Amen.
Comment ce renard détruit la vigne? En creusant des terriers à proximité de la vigne. Alléluia.
Amen.
Alors là, ça peut être dangereux. Espérance trompeuse. C'est un renard qui détruit la vigne. Faites attention. Là, c'est le premier renard qu'on a vu. Alors, ce soir, je voudrais, mes bien-aimés, vous inviter à prendre les livres de deux chroniques dans l'Ancien Testament. Au chapitre 29. Et nous allons lire le verset 10 et 11. Espérance trompeuse, premier renard qui détruit la vigne. Alléluia.
Amen.
Ouvre tes oreilles, puisque tu es un HBC 2. Attention, attention, attention. Il y a des renards qui détruisent la vigne. 1. Espérance trompeuse. Alléluia.
Amen.
Alors maintenant, 2 Chroniques 29, versets 10 et 11. Lisons ensemble. J'ai donc l'intention de faire alliance avec l'Éternel, le Dieu d'Israël, pour que son ardente colère se détourne de nous. 11. Maintenant, mes fils, cessez d'être négligents, car vous avez été choisis par l'Éternel pour vous tenir à son service devant lui, pour être ses serviteurs et pour lui offrir des parfums. Alléluia.
Amen.
Est-ce que tout le monde a bien lu?
Amen.
Vous pouvez vous asseoir. Merci beaucoup. Alors, pour sa parole de ce soir, je désire souligner particulièrement le verset 11. Et dans ce verset 11, voici le mot qui m'intéresse. Voici les mots qui m'intéressent. C'est au niveau de la première phrase, là où il y a une virgule. Il dit, maintenant, mes fils, qu'est-ce qui suit?
Cessez d'être
négligent. Ça, c'est le message de ce soir pour toi et pour moi.
Amen.
Cessez d'être négligent. Voilà un deuxième renard. Ça va pour tout le monde? Cessez d'être négligent. Espérance trompeuse, premier renard. Deuxième renard, c'est la négligence. Dans nos rangs. La négligence. Négligent. Cet adjectif, selon Robert, il dit qui fait preuve de négligence. Quand on te dit que tu es négligent, c'est-à-dire que tu fais preuve de négligence. Alors nous sommes allés plus loin pour aller voir que signifie le non-négligence. Le non-négligence, selon Robert, attitude de manque de soin. Hein? Attitude de manque de soin, virgule, d'application dans l'exécution d'une tâche. On peut aussi dire que la négligence est un manque d'attention, de vigilance à l'égard des choses, d'événements. Et le synonyme de négligence, mon frère et ma soeur, indolence, insouciance, paresse, mollesse. Alléluia. Maintenant que je viens de m'acquitter de ce devoir d'ouvrir un peu le sens des mots que nous utilisons dans notre titre, je me fais toujours ce devoir-là pour que nous puissions être dans un même contexte. Cessez d'être négligent dans ta vie pratique, quittons même l'Assemblée. Examine-toi. Puisqu'on nous dit, manque d'attention, de vigilance à l'égard de choses, d'événements. Et c'est le synonyme d'indolence, d'insouciance, paresse, mollesse. Cessez. C'est un ordre que le roi Ézéchias donne au peuple pour le réveiller. Ceux qui ont la Bible Scofield, au verset 3, frère Benoît, quel est le titre? Verset 3, Deux Chroniques 29. Ah, tu n'as pas Scofield? Qui a Scofield? Personne? Au verset 3, Scofield intitule à partir du verset 3, du chapitre 29, à partir du verset 3, il parle du réveil. Jusque là où nous sommes arrivés, Scofield parle du réveil.
Amen.
Alléluia.
Amen.
Donc Scofield, le roi donne cet ordre pour réveiller son peuple. Pourquoi? Noah, tu peux lire le verset 6. Il répond.
Car nos pères ont péché.
Mm-hmm.
Ils ont fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, notre Dieu.
Oui.
Ils l'ont abandonné.
Ah.
Ils ont détourné le regard du tabernacle de l'Éternel et lui ont tourné le dos.
Vous avez entendu? C'est pour cela que le roi donne cet ordre. Le roi veut réveiller son peuple qui a abandonné Dieu, ce peuple qui a tourné le dos. Tu te dis, mais non, moi je suis à l'église tous les jours. Oh, c'est quoi ça? Ok, mais ton cœur est devenu insensible. Tu es à l'église, mais ton cœur est devenu insensible. Et Dieu qui sent le cœur sait. Alléluia. Tu es dans la formalité. Mais au fait, tu es insouciant, ça ne te dit rien. Tu es indolent. Alors ici, le peuple, Le peuple a abandonné, le peuple a tourné le dos à son Créateur. Cette situation, Ésaïe 1, verset 4, en parlait déjà. En parle aussi. Ésaïe 1, 4.
Malheur à la nation pécheresse.
Oui.
Au peuple chargé d'iniquité.
Mm-hmm.
À la race des méchants.
Oui.
Aux enfants corrompus.
Oui.
Ils ont abandonné l'Éternel.
Oui.
Ils ont méprisé le Saint d'Israël.
Oui.
Ils se sont retirés en arrière.
Voilà. Tu es là ce soir. Mais au fait, ton cœur est en arrière. Alléluia. Dieu sonde le cœur. Dieu voit que ton cœur ne cadre pas avec la réalité. Tu es là parce qu'il faut qu'on te voie. Il faut qu'on te voie tout simplement. Mais or, Dieu qui sonde le cœur, quand il te regarde, regarde celui-là. Regarde celui-là, hypocrite. Reste chez toi à la maison. Ne viens pas venir perdre ton temps ici. Voyez-vous? À qui s'adressait cet ordre? Noah. À qui s'adressait cet ordre? Non, 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 non. Nous retournons deux chroniques. À qui s'adressait cet ordre? Verset 5. Oui. 2 Chroniques 29, verset 5.
Aux Lévites, maintenant, et il leur dit, écoutez-moi, Lévites.
Non, commence au verset 4 jusqu'au verset 5.
Il fit venir les sacrificateurs.
Oui.
Et les Lévites.
Oui.
Qu'il assembla dans la place orientale.
Uh-huh.
Il leur dit, écoutez-moi, Lévites. Maintenant, sanctifiez-vous, sanctifiez la maison de l'Éternel, le Dieu de vos pères, et mettez ce qui est impur hors du sanctuaire.
Merci. Donc ici, il s'adresse aux sacrificateurs et aux Lévites.
Amen.
Alléluia.
Amen.
Tous descendants de Lévi. Alléluia.
Amen.
Tous descendants de Lévi. Pas de confusion possible. Tous sont descendants de Lévi. Tu as Lévi. Lévi a eu 3 enfants, Gershon, Kehat et Merari. Et c'est dans la famille de Kehat qu'on va voir Amram. Et Amram aura Aaron et Moïse. Alléluia. Alors ici, tout sacrificateur est lévite. Alléluia. Mais tout lévite n'est pas sacrificateur. On est d'accord?
Amen.
Il faut que ça soit clair. Tout sacrificateur est lévite. Et dans la sacrificature, il y a le souverain sacrificateur, c'est-à-dire le chef suprême du culte israélite. Et puis, il y a des sacrificateurs qui sont ses assistants. Alléluia. Et il y a des Lévites. Bon, on ne va pas développer là-dessus pour parler de leurs fonctions, comment ça se passait. Nous passons. Alors, sous, ça c'était dans les temps anciens, sous la grâce, les enfants de Dieu forment une sainte sacrificature royale selon 1 Pierre 2. Pierre 2, verset 5, et tu iras au verset 9 après.
Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce,
oui,
afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ.
Et tu vas au verset 9.
Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière.
Ok, donc je disais, sous la grâce, les enfants de Dieu forme une sainte sacrificature royale selon 1 Pierre 2, le verset 5 et 9. Et ils sont faits sacrificateurs selon Apocalypse 1, à partir du verset 4 et 6.
Jean aux sept églises qui sont en Asie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient, de la part des sept esprits qui sont devant son trône, et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts, et le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour Dieu son Père.
Ok, Apocalypse 5, verset 10.
Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre.
Ok, Apocalypse 20, verset 6.
Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ, et ils régneront avec lui pendant 1000 ans.
Ok, donc ici nous sommes faits sacrificateurs pour jouir d'une pleine liberté en entrant dans le lieu saint. Alléluia. Selon Hébreux 10, verset 19.
Ainsi donc, frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans son sanctuaire, dans le sanctuaire, par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair.
Ok. Voilà pourquoi on a fait de nous des sacrificateurs. Alléluia. Donc, cela suggère qu'aujourd'hui, mon frère, ma chère, écoute-moi bien, qu'aujourd'hui, tu as un rôle spécial et sacré dans ta relation avec le Seigneur qui te met dans une position de service et d'adoration. Amen. Donc ici, le roi parle aux Lévites et aux sacrificateurs. Pourquoi? Parce qu'ils ont tourné le dos à leur Dieu et il leur dit, cessez d'être négligent.
Amen.
Alors, toi et moi, nous sommes dans une position de service et d'adoration. Voilà pourquoi Dieu s'adresse encore à toi ce soir. Dans ce service d'adoration, dans ce service de sacrificateur, tu ne peux pas être négligent. Fais attention, fais attention. Alléluia. Le croyant en exerçant la sacrificature aujourd'hui est appelé à offrir un triple sacrifice. Et tu dois offrir ce triple sacrifice avec toutes tes forces. Tu dois être zélé. Alléluia.
Amen.
Pas d'insouciance. Pas d'indolence. Le croyant, je disais, en exerçant la sacrificature aujourd'hui, est appelé à offrir un triple sacrifice. 1. Son corps. Romains 12, verset 1.
Je vous exhorte donc, frères,
oui,
par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable.
Alléluia. Ceci pourrait faire l'objet aussi d'une prédication. Alléluia. Mais laissons ça comme ça. Alléluia. Tu dois tout simplement te rendre compte que ton premier sacrifice, c'est ton corps. Alléluia. C'est ton corps. Puisque tu es sacrificateur, Dieu a fait de toi un sacrificateur. Tu as un triple sacrifice à offrir. Ton corps. Deuxième sacrifice, la louange. Hébreux 13, verset 15.
Par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange.
Ok. Tu vois ça? Un sacrifice de louange. Et quand on doit vous supplier, chantons, on n'entend pas vos voix, on ne fait pas ceci. Et la musique, cacophonie, il n'y a pas d'harmonie, il n'y a pas de synchronisation. Oh, faites attention! Faites attention! Cessez d'être négligent! C'est un sacrifice que tu offres en tant que sacrificateur. Alléluia.
Amen.
Troisième sacrifice que tu vas offrir, tes biens. Hébreux 13, verset 16.
Et n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité.
Oui.
Car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir.
Tu as entendu? Tu dois offrir un triple sacrifice. Ton corps, tes louanges, et puis tes biens. Est-ce que ça nécessite un commentaire? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Sinon, on pourra bien revenir faire de ces trois sacrifices toute une prédication. Et pour le moment, on attire tout simplement ton attention. On a fait de toi un royaume de sacrificateurs pour que tu puisses offrir un triple sacrifice. Où en es-tu? Où en es-tu? Et moi-même qui parle ici, je suis où? Cessez d'être négligent. Cessez d'être négligent. Avant que le roi Ézéchias donne cet ordre, il est bon de savoir qu'est-ce qui s'est passé pendant le règne du roi Akaz en Juda. Le roi Akaz qui était son père. Pendant le règne de son père en Juda, il y avait l'idolâtrie et beaucoup de désastres. De Chroniques 28, versets 21 à 27.
Car Akaz dépouilla la maison de l'Éternel.
Écoutez très bien ce qui s'est passé. Oui.
Akaz dépouilla la maison de l'Éternel, la maison du roi et celle des chefs, pour faire des présents au roi d'Assyrie, ce qui ne lui fut d'aucun secours. Pendant qu'il était dans la détresse, il continuait à pécher contre l'Éternel. Lui, le roi Akaz.
Oui.
Il sacrifia au dieu de Damas qu'il avait frappé et il dit, « Puisque les dieux des rois de Syrie leur viennent en aide, je leur sacrifierai pour qu'ils me secourent. » Mais ils furent l'occasion de sa chute et de celle de tout Israël.
24.
Akaz rassembla les ustensiles de la maison de Dieu et il mit en pièces les ustensiles de la maison de l'Éternel. Il ferma les portes de la maison de l'Éternel.
Suivez bien les actions d'Akaz. Oui.
Il ferma les portes de la maison de l'Éternel. Il se fit des autels à tous les coins de Jérusalem. Et il établit des hauts lieux dans chacune des villes de Juda pour offrir des parfums à d'autres dieux. Il irrita ainsi l'Éternel, le Dieu de ses pères. Le reste de ses actions et toutes ses voies, les premières et les dernières, cela est écrit dans le livre des rois de Juda et d'Israël.
Vous avez entendu? Voilà ce qui s'est passé en Juda pendant le règne du roi Akaz. Il a fait des choses terribles et qui ont irrité le dieu de Juda. Alors à sa mort, Ézéchias est devenu roi. C'est ainsi que dans 2 Chroniques 29, versets 10 et 11 qu'on a lu pendant l'introduction, Ézéchias a quelle intention?
De faire alliance avec l'Éternel.
Non. 2 Chroniques 29, versets 10 et 11.
J'ai donc l'intention de faire alliance avec l'Éternel, le Dieu d'Israël, pour que son ardente colère se détourne de nous.
Oui.
Maintenant, mes fils, cessez d'être négligents, car vous avez été choisis par l'Éternel.
Quelle grâce.
pour vous tenir à son service devant
oui.
lui.
Oui.
Pour être ses serviteurs.
Et maintenant?
Et pour lui offrir des parfums.
Et maintenant, vous êtes où? Hein? Noah, tu as été fait sacrificateur. Tu es où? Tu es où? Pourquoi es-tu devenu négligent? Alors, Ézéchias a l'intention de renouveler l'ancienne alliance mosaïque avec l'Éternel, Amen. Afin qu'il puisse une fois encore bénir la nation, Amen. N'est-ce pas? Alléluia. Alors maintenant, question. Le fils a de bonnes intentions parce qu'il s'est rendu compte que son père, ce qu'il a fait pendant son règne, irritait l'Éternel. En lui, il a au moins de bonnes intentions. Alors, question, comment sont-ils arrivés d'abandonner l'Éternel? Comment sont-ils en arrivés là? Vous savez, l'histoire se répète toujours. C'est comme dans Nombre 25, dans le cadre de l'idolâtrie avec le culte de Baal à Péor. Nombre 31, 16 et 18 Noah. L'histoire se répète toujours.
Voici, ce sont elles.
Nombre 31, verset 16 jusqu'à 18.
Voici, ce sont elles qui, sur la parole de Balaam, ont entraîné les enfants d'Israël à l'infidélité envers l'Éternel, dans l'affaire de Péor.
Oui.
Et alors éclata la plaie dans l'assemblée de l'Éternel.
Mm-hmm.
Maintenant, tuez tout mâle parmi les petits-enfants.
Oui.
Et tuez toute femme qui a connu un homme en couchant avec lui.
Oui.
Mais laissez en vie pour vous toutes les filles qui n'ont point connu la couche d'un homme.
Oui.
Et vous, campez pendant 7 jours hors du camp. Tous ceux d'entre vous qui ont tué quelqu'un et tous ceux qui ont touché un mort se purifieront le 3e et le 7e jour, eux et vos prisonniers.
Ok. Ici, le peuple d'Israël, on nous cite quelqu'un qui les a incités à ça. Alléluia. Mm-hmm. Balaam a donné le tuyau à Barak. Alléluia. Et voilà, ils se sont livrés à l'idolâtrie. Et ici, en Juda, qu'est-ce qui se passe? Comment sont-ils en arrivés là? Hein? Comment? Comment sont-ils en arrivés là? Hmm? Nous voyons l'influence de quelqu'un, monsieur le roi. Alléluia. Le peuple, à cet effet, est contaminé. Amen. La contamination exige la purification.
Amen.
Deux Chroniques 29, verset 5 d'abord. Après, tu iras au verset 16.
Et il leur dit, écoutez-moi, Lévite.
Mm-hmm.
Maintenant, sanctifiez-vous.
Voilà.
Sanctifiez la maison de l'Éternel, le Dieu de vos pères, et mettez ce qui est impur hors du sanctuaire.
OK, verset 16.
Les sacrificateurs entrèrent dans l'intérieur de la maison de l'Éternel pour la purifier.
Mm-hmm.
Ils sortirent toutes les impuretés qu'ils trouvèrent dans le temple de l'Éternel et les mirent dans le parvis de la maison de l'Éternel où les Lévites les reçurent pour les emporter dehors au torrent de Cédron.
Tu as entendu? Quand le peuple est contaminé, la contamination exige la purification. Alléluia. Donc ici, notre roi Ézéchias a réussi au moins à passer par la purification de son peuple. Alléluia.
Amen.
Cessez d'être négligent. Incroyable, incroyable mais vrai, n'est-ce pas, frères et sœurs? Incroyable mais vrai, des gens choisis et établis par l'Éternel, mais ils sont tombés dans la négligence à cause d'une mauvaise influence. Alléluia.
Amen.
C'était l'influence de monsieur le roi Akaz. Alors mon frère, ma sœur, écoute-moi très bien. L'assemblée ne doit pas être esclave des hommes et de leurs idées, leurs normes, leurs compréhensions et leurs opinions.
Amen.
Attention. Alléluia. Ce que nous venons de voir, sous l'influence du roi, parce que c'est la tête, il a commencé à faire des, à poser des actes bizarres et le peuple s'est réjoui aussi et dit, oh, mais c'est bon, oui, c'est le roi qui fait ça. Alors nous, les citoyens lambda, qu'est-ce que ça nous fera? Je disais, l'Assemblée ne doit pas être esclave des hommes et de leurs idées, leurs normes, leurs compréhensions et leurs opinions. Gardons nos yeux sur Dieu et non sur des hommes. Alléluia. Gardons nos yeux sur Dieu et non sur des hommes. Nous sommes terrestres et charnels, mais Dieu est esprit, n'est-ce pas? La parole de Dieu est esprit et vie selon Jean 6, verset 63.
C'est l'esprit qui vivifie.
Oui.
La chair ne sert de rien.
Mm-hmm.
Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie.
Ah, tu as écouté? Alors, la foi en cette parole qui est esprit et vie amène le Dieu vivant sur la scène. Peu importe les circonstances et les perspectives extérieures. Alléluia. La foi seulement en cette parole qui est esprit et vie qui peut amener le Dieu créateur du ciel et de la terre d'entrer en scène. Peu importe les circonstances et les perspectives, rien que la foi qui peut faire cela. Alléluia.
Amen.
Alors, mon frère et ma sœur, je te demande de prier Dieu pour qu'il puisse placer devant toi des hommes qui connaissent ses voies et des hommes qui sont attentifs et vigilants. Alléluia. Pour que tu avances dans ta vie. Alléluia. Nous avons comme ça l'exemple de Samuel à côté d'Élie. Alléluia.
Amen.
Nous avons l'exemple de Timothée à côté de Paul. N'est-ce pas?
Amen.
Et nous avons l'exemple de Josué à côté de Moïse. Priez Dieu, priez Dieu, priez Dieu, priez Dieu qu'il mette devant toi des hommes qui connaissent ses voies et qui sont très attentifs et vigilants pour que tu avances dans ta vie. Sinon, tu subiras une mauvaise influence. Alléluia. L'influence d'un autre. Le messager dit ceci. À la page 25, à la page 25, paragraphe 88, il dit, par conséquent, nous voulons la croix, nous voulons Christ maintenant, pendant que nous le pouvons. Ne soyez pas influencés par un homme qui peut peut-être descendre plus de potage. Ne vous laissez pas influencer par un homme qui vous offrirait une meilleure voiture ou une plus belle maison et vous amènerait à vendre votre droit d'aînesse envers Christ. Ne le faites surtout pas. Prenez garde à ce que vous faites. Suivez toujours celui qui est influencé et soutenu par Dieu. Et dont vous savez que Dieu est avec lui. Ne suivez pas la mauvaise influence. Oui, très bien, n'essayez pas de prendre la place d'un autre. Alléluia. Alléluia. Alors, page 31, pour comprendre le paragraphe dont j'ai besoin, 114, il faut que je lise le paragraphe 113. Alléluia. Mais sinon, le paragraphe 113 ne nous intéresse pas. Tout simplement, c'est pour que ça nous permette de comprendre le paragraphe 114. Une dame est allé il y a quelque temps. J'ai envoyé ma femme. Nous étions en une réunion. Elle n'avait pas le temps de se laver les cheveux. Et elle, trois points de suspension, je lui ai dit d'aller simplement dans un de ses salons de coiffure, se faire laver les cheveux. Elle y est là. Et la coiffeuse ne sut même pas comment arranger ses cheveux. Elle lui enroula simplement au sommet de la tête. Eh bien, dit-elle, je n'ai pas lavé la tête de quelqu'un qui avait de longs cheveux. Et elle n'y connaissait rien. Je ne sais pas, oh là là, vous voyez, paragraphe 114 qui nous intéresse, ils ne savent pas de quoi il s'agit. Pourquoi? C'est à cause d'hommes faibles à la chair, sous l'influence desquels ils se sont trouvés. C'est vrai. Exactement des hommes faibles à la chair, qui ne veulent pas dire la vérité. Ils établissent des compromis avec elle. Vous voyez? Alors, faites attention. Il ne faut pas que vous vous retrouviez sous l'influence des hommes faibles. Hein? Il faut faire attention. Des hommes faibles à la chair. Il faut faire attention. Alléluia. Il faut faire attention, il faut veiller. Donc, on ne doit pas se retrouver sous une mauvaise influence. Alors, de là, je tire un slogan pour les HBC2. Un slogan pour être vigilant. Agir juste, c'est ton devoir envers Dieu.
Alléluia.
Agir juste, c'est ton devoir envers Dieu, puisqu'il s'agit de cesser d'être négligent.
Amen.
Alléluia.
Amen.
Agir juste, c'est ton devoir envers Dieu. Penser juste, c'est ton devoir envers toi-même.
Amen.
Alléluia.
Amen.
Penser juste, c'est ton devoir envers toi-même.
Hein? Oui. Amen.
Et à la fin, tu es obligé de finir juste. Alléluia.
Amen.
Un, agir juste, c'est ton devoir envers Dieu.
Amen.
Deux, penser juste, c'est ton devoir envers toi-même. Trois, tu es obligé de finir juste. Alléluia. C'est ça un HBC2 qui est vigilant, qui n'est pas paresseux, qui n'est pas insouciant. Alléluia.
Amen.
Que tout ce qui est juste soit l'objet de tes pensées.
Amen.
Alléluia.
Amen.
Cessez d'être négligent. Cessez d'être négligent. Sinon, quoi? Sinon quoi? Tu risques d'être un sans-papier devant la porte du ciel. Il ne faut pas rigoler, Michel. C'est une réalité. Cessez d'être négligent, sinon tu risques d'être un sans-papier devant la porte du ciel. Alléluia. Pense. Pense. À Matthieu 25, parabole de 10 vierges, n'est-ce pas?
Amen.
5 vierges appelées sages se sont préparées adéquatement. Suivez mon langage. 5 vierges appelées sages se sont préparées adéquatement. Ça veut dire quoi? Sans négligence, sans paresse, adéquatement. Alléluia. Car elles avaient les lampes et de l'huile additionnelle. Ah! Ils avaient des lampes et de l'huile additionnelle. Dans des vases. Et les 5 autres appelées folles avaient des lampes, mais pas d'huile en surplus. C'est ça qui faisait la différence. Donc, ils se sont dit, oh, ça va, c'est pas grave. C'est bon, allons-y. Voyez-vous la négligence. Allons-y, c'est pas grave. Oh, mais nous sommes quand même des vierges, non? Oh, comment? Qu'est-ce que vous pensez? Nous aussi, nous prions. Vous croyez que c'est quoi, ça? Papa, il faut bien examiner si tu as tout ce qu'il te faut pour faire ces voyages. Alléluia. Mais voilà, insouciance, on part. Alors que les cinq vierges sages avaient des lampes. Alléluia. Et de l'huile additionnelle. Et pourquoi elles sont folles? Elles sont folles parce qu'elles n'avaient que des lampes et pas d'huile en surplus. En surplus. Alléluia.
Amen.
Hein? Après avoir entendu la prédication de Jean-Baptiste, tu as été touché, tu t'es dit, « Ah bon, je me fais baptiser. » Ok. Et depuis lors, on te voit à l'assemblée. Tu chantes. Tu participes à la Sainte Cène. Oh, tu es un bon chrétien. Très bien. Hé, tu dois quand même te souvenir de ce jeune homme riche. Est-ce qu'il ne te manque rien? Hein? Est-ce qu'il ne te manque rien? Est-ce qu'il ne te manque rien? C'est ça la bonne question qu'il faut se poser. C'est ça l'essentiel. C'est ça l'essentiel. Le jeune homme riche, à un certain moment, non, dans son fort intérêt, il s'est dit, j'ai tout, mais j'ai l'impression, c'est comme si il me manquait quelque chose. Allez, Marc 10, chef, c'est la Marc 10. J'ai l'impression que c'est comme si il me manque quelque chose. Hein. Marc 10, cherche un peu là où on parle de, un peu en bas là. Le jeune homme riche. C'est au milieu là.
20.
Qu'est-ce qu'il dit de lui quand il vient voir le Seigneur?
21. Quand il vient voir. Jésus l'ayant regardé, l'aima et lui dit, il te manque une chose.
Ah! Mais il était un bon chrétien. Alléluia. Il était un bon chrétien, il a tout fait. Il dit, oh non, Seigneur, tout ça, j'ai tout fait. Alléluia. Mais celui qui t'a fait sacrificateur te dit, oui, c'est bon, mais il te manque quelque chose. Alléluia. Il te manque quelque chose. Alors, le jour de l'enlèvement, tu seras étonné de n'être pas enlevé. Mais tu étais comme les cinq vierges folles, non? Tu étais dans l'accessoire, espérance trompeuse. Mais tu n'étais pas dans l'essentiel. Alors, tu te retrouves comment, Noah? Matthieu 25, 11 et 12.
Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous !» Mais il répondit, « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. »
Pourquoi je ne vous connais pas, Noah? Pourquoi? Tu as été dans la négligence. Tu n'as pas su vérifier s'il ne te manquait pas quelque chose. Ta valise n'a pas été bien préparée. Il te manquait ta brosse à dents. Mais toi, dans ta manière d'être, faut folle. Tu dis, oui, j'en ai. Même si je n'en ai pas, je vais acheter là où j'y vais. Hein? Ah bon? Prépare-toi dès le départ. Alléluia. Prépare ta valise convenablement. Cessez d'être négligent. Mon frère, ma soeur, tu dois faire très, très attention à la négligence. Tu sais pourquoi? Est-ce qu'il y a quelqu'un dans l'assemblée?
Amen.
Tu sais pourquoi? Bon, écoute. Jérémie 48, verset 10. Jérémie 48, verset 10. Oui.
Maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel.
Ok. Est-ce que tu réalises cela? Pourquoi est-ce que tu dois être très, très attentif, très, très appliqué? Puisque l'Éternel dit, maudit soit. Alors, tu veux la malédiction? Oh, mais oui, tu dis non, mais dans mes agissements et dans tes agissements, faisons quand même attention. Donc ici, quand Dieu parle dans Jérémie 48, 10, Dieu a résolu de détruire le pays de Moab. Alléluia. Et au verset 10, c'est qu'il dit, donc, Dieu menace de maudire les nations choisies à cet effet si elles accomplissaient avec négligence leur travail. Tu vois ça? Donc, les nations que Dieu a choisies pour détruire Moab, si ces nations n'arrivaient pas à faire le job convenablement, quoi? Malédiction. Alors maintenant, toi, mon frère, ma soeur, dans l'œuvre du Seigneur, dans l'œuvre du Seigneur, tu es censé offrir un triple sacrifice, n'est-ce pas? Ça se passe comment? Je suis censé offrir triple sacrifice. Ça se passe comment? Toujours dans la paix près. Toujours dans la paix près. Non jamais juste. Ah, mais vous savez, la fatigue, j'ai travaillé tout. La malédiction va te suivre. Nous ne comprenons pas toujours pourquoi, des fois, nous menons une vie de, entre parenthèses, de misère. Émotionnellement, sentimentalement, on est toujours stressé. Alléluia. C'est comme si tu étais un accident du destin. Toujours pas sûr, toujours. Mais est-ce que tu t'examines pour voir si... Non, répète un peu ça. Jérémie 48, 10.
Maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel.
Ok, je ne commente pas. Alors, tu vois déjà, tu as un triple sacrifice à offrir. Comment est-ce que tu t'en sors? C'est entre toi et ton Dieu. Et même moi qui parle ici. Et parfois, tu essaies de faire ceci, ça ne marche pas. Tu essaies de faire ceci, ça ne marche pas. Mais au niveau du service, puisqu'on t'a choisi et établi pour un service spécifique, qu'en est-il de toi? Alléluia. Il est impossible de s'affirmer HBC2 et de refuser d'obéir à Dieu. Luc 6, 46.
Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis?
Voilà. Seigneur, 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 dans la chrétienté aujourd'hui, Seigneur, Seigneur, tout le monde prie, oui, nous avons des miracles, nous avons des ceci, nous avons de cela. Ok, mais nous sommes toujours dans la paix près. Sommes-nous obéissants? Quand tu dois servir le Seigneur, écoute ce que Paul dit aux Éphésiens. Éphésiens 6, verset 7.
Servez-les avec empressement.
Ah! Tu as entendu? Comment doit-on servir le Seigneur? Avec empressement. Oui?
Comme servant le Seigneur et non des hommes.
Ah! Donc, toi, tu as un triple sacrifice à offrir. Ton corps d'abord, comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Et dans tes louanges, et dans la libéralité, toutes ces choses, tu ne dois pas te poser des questions. Il faut être dans l'état où je suis en train de servir le roi de rois. Amen. Alléluia. Amen. Je sers le maître et je n'attends rien en retour. Amen. Parce que lui, il m'a créé. Amen. C'est pour que je sois à son service.
Alléluia.
Alléluia. Amen. Alors, servir, c'est un acte qui peut embrasser plusieurs domaines. Tels que nous sommes là dans l'Assemblée. Plusieurs domaines, le service peut embrassé. L'écoute de ceux qui souffrent ou qui ont peur. Ils sont plusieurs ici qui souffrent et qui ont peur. Parler devant les autres frères et sœurs, hein, ils sont toujours là, hein, avec beaucoup de soucis. L'hospitalité, par exemple, que tu peux offrir, les conseils que tu peux prodiguer à ceux qui sont tourmentés, alléluia, l'accompagnement que tu peux accorder aux enfants dont hein, les têtes sont devenues un peu compliquées, alléluia. Alors tout ça, il ne faut pas vouloir les faire bon, non. Prendre du temps, tu dis, je suis en train de servir le Seigneur, alléluia. Alors, il faut le faire de bon cœur. Il faut servir de bon cœur, comme si tu servais le Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Attention, attention à la négligence. J'ai vu le frère a donné la date de vendredi pour la veiller. Et si toi, ta batterie n'est pas chargée, il ne faut pas venir. Ne viens pas. Puisque tu es fatigué, ne viens pas. Demande à Dieu qu'il te recharge d'abord. Comme ça, quand tu viendras avec les autres, ensemble, quand on mettra le bois ensemble, ça donnera un grand feu. Alléluia. Non. Frère, c'est un conseil que je te donne. Tu es là en train d'attirer la malédiction sur toi. Parce qu'on dit, maudit soit celui qui fait le travail de Dieu avec négligence. Tu viens seulement... Pour, bon, ah oui, le frère aussi est là, hein, il est zélé, alors qu'il n'y a rien. Ne viens pas. Alléluia. Je te supplie, ne viens pas. Au lieu de bénédiction, tu t'attires de malédiction. Parce que tu ne fais pas ce travail avec empressement. Alléluia. Amen. Tu es dans la négligence, donc ça ne sert à rien. Prie d'abord. Seigneur, fais de moi un instrument par lequel le feu peut s'allumer dans cette assemblée. Mais il faut que tu te prépares depuis chez toi. Batterie à plat, qu'est-ce que tu vas apporter? Hein? Ta batterie est à plat, qu'est-ce que tu vas apporter? Rien. Quand rien, ça ne démarre même pas. Mais reste à la maison. Appelle d'abord Touring Secours pour qu'on te dépanne. Quand tu as dépanné maintenant, tu peux venir t'assembler. Touring Secours, c'est le Saint-Esprit dans ta chambre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Fais appel au Saint-Esprit qu'il vienne à ton aide, te recharger. Alors quand tu sors, tu te sens au moins utile. Alléluia. Amen. Tu te sens au moins utile dans les groupes au lieu d'être un accompagnateur. Ces choses sont dites, c'est bien, mais il faut apprendre à demander l'aide, le secours du Seigneur, qu'il te donne la révélation comment tu dois servir le Seigneur avec empressement. Comment tu dois servir le Seigneur avec zèle. Alléluia. Alors pour terminer, Noah, pour terminer, lisons Cantique des Cantiques, chapitre 2, verset 15.
Prenez-nous les renards, les petits renards qui ravagent les vignes.
Ah, qu'est-ce qu'on dit?
Car nos vignes sont en... Prenez-nous les renards.
Oui.
Les petits renards qui ravagent les vignes.
Ok, donc on vient de voir le deuxième petit renard, la négligence. Alléluia. Alléluia. Deuxième petit renard qui ravage les vignes. Donc il faut le prendre. Alléluia. Il faut le prendre, la négligence. Premier renard, c'est espérance trompeuse. Deuxième renard, c'est la négligence. Il faut le prendre. Parce qu'on vient de nous dire, ce petit renard ravage nos vignes, n'est-ce pas, Noah?
Amen.
Ah. Tout est affaire de choix dans la vie. Et n'oublie pas que le bon choix feront de toi un chrétien apte à marcher dans la présence du Seigneur. Alléluia. Il faut faire de bons choix. Il faut faire de bons choix. Comme les cinq vierges sages, elles avaient leur lampe plus de l'huile additionnelle. Alors toi aussi, moi aussi, je dois être dans cette dynamique-là pour ne pas être un sans-papier devant la porte du ciel. Et qu'on te dise, hey, on ne te connaît pas. Alors, mon frère, ma soeur, toi qui as été ici ce soir, hein, tu dois prendre ce petit renard qui est en train de détruire ta vie, c'est-à-dire ta vie spirituelle. Alléluia. Il faut le prendre. Alléluia. Amen. J'espère que on n'est pas là comme des auditeurs oubliés. Hein? On n'est pas là comme des auditeurs oubliés. Premier renard, Abel. Premier renard, espérance trompeuse. Compris? Deuxième renard. Ah! On ira les chercher pour les exposer. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Et nous allons prier ensemble pour la prédication et pour notre retour à la maison. Prions. Seigneur notre Dieu, merci encore parce que tu viens encore de nous donner des instructions pour que nous puissions, ô mon Dieu Père éternel, nous outiller convenablement comme les cinq vierges sages. On ne soit pas comme les cinq vierges folles. Non, Papa. Ôte la paresse au-dedans de nous. Ôte, ô mon Dieu Père, l'inattention, Seigneur Jésus. Ôte, ô mon Dieu Père, en nous la mollesse. Nous avons besoin de te servir avec empressement. Et cela ne peut venir que de toi. Il n'y a que toi, Père, qui peux nous accorder cette faveur. Merci. Nous avons écouté. Maintenant, que toi, tu puisses vraiment nous aider afin que nous puissions être à la hauteur de te servir convenablement. Merci pour ta présence au milieu de nous. Merci pour la parole que nous venons d'écouter. Maintenant, nous voudrions rentrer dans nos maisons. Nous sollicitons encore, ô mon Dieu Père, ta miséricorde, ta faveur, pour que nous puissions rentrer dans nos maisons. Que tu gardes notre départ et notre arrivée. Souviens-toi de nos malades, Père éternel. Souviens-toi, ô mon Dieu, Père des rétrogrades de cette assemblée. Sois-nous favorables. Et dans le nom béni et suffisant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, que je t'ai ainsi prié. Amen.
Amen.
Allez dans la paix du Seigneur. Notre service de ce soir est terminé. Que Dieu vous bénisse.